Sont grands les jeunes. Merci. Alors, je vais vous faire imaginer une histoire. Vous aurez peut-être du mal à voir où je veux en venir, mais vous comprendrez par la suite. Imaginez que vous êtes assis à une table et devant vous, il y a un compromis de vente. Vous voulez acheter une maison. Une maison superbe, magnifique, plusieurs salles de bain, piscine, jacuzzi, terrain de tennis, beau jardin, idéalement situé. Vous savez déjà comment vous allez pouvoir faire de l'argent, même avec cette maison, et vous le savez d'autant mieux qu'elle est vendue très largement au-dessous de son prix, au-dessous de son prix, à un prix qui vous est accessible, parce que sinon l'histoire n'a aucun intérêt, évidemment. Tout est prêt, il manque une seule chose, c'est votre signature en bas du compromis. Et l'agent immobilier vous explique que c'est d'autant plus une bonne affaire que vraiment, si vous ne signez pas, le vendeur va se retrouver à la rue sans aucun moyen de subsistance. Par contre, si vous signez, vous le sortez d'une situation impossible. Grâce à la vente, il va avoir un avenir, il va pouvoir rebondir. Donc vraiment, vous faites même une bonne action en fait, hein, en signant. Alors, est-ce que vous signez? A priori, moi je signe. Ça a l'air bien, tout ça. Mais au moment de poser la pointe du stylo sur la feuille, parce que c'est à l'ancienne, c'est au stylo, vous apercevez un petit astérisque qui renvoie vers un tout petit paragraphe qui est écrit en tout, tout petit caractère. Donc vous prenez une loupe, puis vous lisez. Et ce que vous lisez, c'est qu'en fait, cette maison ne vous appartiendra pas. Vous en aurez l'usage jusqu'à ce que le vendeur ait un enfant. Et à ce moment-là, la maison reviendra à l'enfant. Et non seulement ça, mais en plus, le vendeur va continuer de vivre dedans. Donc vous devrez vivre avec lui ou vous débrouiller, enfin peu importe. Et vous devrez subvenir aux besoins du vendeur et de sa famille jusqu'à la fin de vos jours. Bon, ça change un peu la donne. Mais rappelez-vous quand même que si vous ne signez pas, il se retrouve à la rue. Il n'a aucun moyen de subsistance. Bon, légalement, vous ne lui devez rien, en fait. Donc, il ne reste qu'une seule question à ce stade, c'est est-ce que ce vendeur, vous l'aimez assez pour faire ça? Et si je pose la question, c'est parce que c'est à ce genre d'amour engagé que Dieu nous appelle. Suivre Jésus, ça coûte. L'amour du prochain, auquel Dieu nous appelle, nous engage profondément. Il a un prix élevé et il n'est pas toujours payé de retour. À vue humaine, ce n'est pas toujours une bonne affaire. À vue humaine, il y a souvent plus à perdre qu'à gagner. Mais il y a aussi des gens qui sont sauvés, des gens qui passent de la mort à la vie. Alors est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Et si oui, ben jusqu'où? Avec qui? Dans quelles conditions? C'est ce qu'on va explorer ce matin. Je vais prier. Seigneur, nous nous approchons de ta parole avec respect, avec révérence, avec cette conscience que ta parole est lumière et vie, qu'elle nous fait du bien et surtout qu'elle est vivante, qu'elle nous rejoint là où nous nous trouvons, qu'elle vient nous bousculer aussi parfois, nous secouer, nous réveiller. Et Seigneur, si on est venu là ce matin, c'est pour ça aussi, pour se laisser bousculer par ta parole, parce que nous croyons qu'elle est juste et qu'elle nous emmène vers la vie. Alors Seigneur, ce matin, nous en faisons appel à ton Saint-Esprit pour être bousculés. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je n'arrive pas à faire passer le PowerPoint. Merci. Alors, on arrive à la fin du livre de Ruth. Vous savez qu'on est dans cette série. C'est l'avant-dernière prédication sur le sujet. Jusqu'ici, l'histoire a été portée par Naomi et Ruth. Et là, on va arriver au dénouement avec ces versets-là. Et ce dénouement, il est dans les mains de Boaz, cette fois-ci. On n'est plus dans une scène intime ou nocturne. On se trouve à la porte de la ville. C'est le lieu du droit, le lieu des transactions, le lieu où se déroulent les affaires légales devant témoins. Et on va voir comment donc se déroule ce dénouement, comment il commence plus exactement. On va commencer par les versets 1 à 4 de Ruth chapitre 4. Je lis dans la NBS. Et il nous est dit ici, « Boaz était monté à la porte de la ville et s'y était assis. Or le rédempteur dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, assieds-toi ici, un tel. » Il s'approcha donc et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Ils s'assirent, puis il dit au rédempteur, « Noémie, qui est revenue du pays de Moab, a mis en vente la parcelle de terre qui appartenait à Élimélech, notre frère. » Moi, j'ai pensé t'en informer en te disant, achète devant les habitants et les anciens de mon peuple. Si donc tu veux assurer la rédemption, fais-le. Si tu n'assures pas la rédemption, dis-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui puisse le faire. Je ne viens qu'après toi. Il répondit, c'est moi qui assurerai la rédemption. Donc on a là une affaire légale qui est en train de se conduire entre 2 hommes, devant témoins, devant même 10 témoins, histoire de bien blinder la chose. Et ces 2 hommes, ils font face à la même situation. Mais vous verrez, dans la suite de l'histoire, qu'ils n'en font pas du tout la même lecture. L'un de ces hommes va entrer dans l'histoire et l'autre va tomber dans l'oubli. Tout commence par une très bonne affaire. Une affaire du type de celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, une affaire qui attire l'œil, mais une affaire qui va mal tourner. Boaz interpelle le rédempteur. Il est à la porte de la ville, il interpelle le rédempteur, c'est-à-dire celui qui a le premier, le droit de rachat sur la parcelle de terre d'Élimélec. Et il fait ça très propre, dans un cadre légal irréprochable. Il va exposer l'affaire, elle est simple, il y a une terre à racheter, il y a une opportunité foncière. Mais la question de la terre en Israël est un peu plus profonde que ça en fait, déjà parce que la terre n'appartient pas en vrai à son propriétaire, on pourrait le dire comme ça. Dieu lui-même a réparti le pays entre les 12 tribus d'Israël. Les terres ont ensuite été attribuées aux différents clans et familles de chaque tribu. Et la terre, en fait, dans l'esprit du peuple, et en réalité, je dirais, ça s'accorde, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. C'est lui qui a décidé de la répartition et elle lui appartient. Donc on respecte ça. Et donc en cas de vente, il y avait des lois pour que la terre vendue reste dans le même clan. En fait, la terre, la vie spirituelle et la descendance sont intimement liées. Mais pour l'instant, ce que le Rédempteur voit, parce que c'est ce que Boaz lui met sous les yeux, c'est une terre, c'est un investissement, c'est une opportunité patrimoniale. Et donc, évidemment, c'est intéressant, c'est vraiment une bonne affaire, il accepte, il n'a pas d'hésitation. À ce stade, évidemment, tout le monde signe, vous gagnez une terre, vous allez pouvoir la faire fructifier. C'est très bien, c'est simple, c'est juste, c'est même généreux, parce que vous allez sortir le vendeur de la panade. Seulement voilà, Boaz n'a pas tout à fait tout dit. Il y a ce fameux astérix sur le contrat. Il renvoie un petit paragraphe écrit en tout petit caractère, et Boaz, là, va prendre la loupe, et il va lire les petites lignes. Et les petites lignes, les voici. Boaz dit, le jour où tu achèteras le champ à Noémie, tu l'achèteras au nom de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine. Alors là, c'est une autre affaire. Elle change de nature. Il ne s'agit pas que d'acquérir une terre, il s'agit de maintenir le nom de Mahlon, le défunt mari de Ruth, sur son patrimoine. Ce qui implique d'une part de prendre Ruth pour épouse, de s'occuper d'elle, de s'occuper aussi de la belle-mère, Noémie, et ce qui implique également, d'autre part, que quand Ruth aura son premier fils, il ne sera pas considéré comme étant le fils du Rédempteur, il sera considéré comme étant le fils du défunt. Et donc cette terre, achetée par le Rédempteur, sera rattachée à la lignée du défunt, de telle sorte que la propriété restera dans la famille du défunt. Alors là, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant. Financièrement, c'est nul, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour le Rédempteur. Mais vous savez pourquoi ? Parce que le Dieu d'Israël, ce n'est pas Mammon. Ça n'est pas le démon de l'argent. Le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel. Et les lois concernant le Rédempteur, elles n'ont pas été instaurées pour qu'il puisse s'enrichir. Elles ont été instaurées pour éviter, au contraire, que certains ne tirent profit de la pauvreté d'un proche. Ça d'une part. Et puis elles ont été surtout faites pour pouvoir tirer ce proche du pétrin. On parle d'un rédempteur là. Rédempteur en hébreu c'est Goël, et dans le Nouveau Testament ce mot a été traduit par un terme, enfin bon je vous le dis parce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est hexagorazo. Hexagorazo, ça vient de agora, l'agora c'est le marché, et hex c'est le fait de sortir. Donc le rédempteur littéralement c'est celui qui sort quelqu'un d'autre du marché aux esclaves. Il le rend à la liberté, c'est ça le but des lois de rédemption. Et donc il y a la loi, et puis il y a aussi l'esprit de la loi. Parce qu'en fait, la loi de Moïse, quand on la regarde d'un peu près, ce qu'elle dit, c'est que le rédempteur doit racheter la terre. C'est ce qu'on lit en Lévitique 25. Et s'il le fait, s'il rachète cette terre, il permet effectivement que cette terre ne quitte pas le clan d'Élimélec. Elle va changer de famille, mais elle ne va pas changer de clan. Et ça, c'est un bon plan pour le rédempteur, parce que du coup, effectivement, il acquiert la terre, il va pouvoir en profiter, il va pouvoir, enfin, lui appartient, quoi. Mais cette loi n'implique pas que le rédempteur doive prendre Ruth pour épouse, parce que ça, c'est une autre loi, qui est la loi du Lévirat, qu'on trouve en Deutéronome 25. Cette loi du Lévirat, elle concerne les frères du défunt. Eux, effectivement, doivent prendre en charge la veuve et assurer une descendance à leurs frères. Sauf que dans notre histoire, ni le premier rédempteur, dont il est question ici, ni Boaz, ne sont les frères de Mahlon. Ils ne sont pas concernés par cette loi. Et pourtant, Boaz, dans sa présentation qu'il fait publiquement devant 10 témoins, eh ben, il inclut Ruth dans le pacte. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça se présente quand même. Et pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, encore une fois, ce n'est pas de profiter d'une aubaine pour augmenter son patrimoine. L'esprit de la loi, c'est de relever son proche qui est tombé dans la misère. C'est pour ça que Boaz inclut Ruth dans le package de la rédemption. Et il le fait publiquement, il le fait devant 10 témoins, de telle manière que si le rédempteur accepte la terre et refuse la veuve, ce dont il aurait parfaitement le droit légalement, eh ben il va quand même devoir faire face au déshonneur public, quoi, parce que son manque de compassion va être mis au grand jour. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va décider, ce rédempteur? Voici ce qu'il répond. Le rédempteur répondit « Je ne peux pas assurer la rédemption de peur d'anéantir mon propre patrimoine. Assure toi-même la rédemption qui m'incombe, car je ne peux pas le faire. Autrefois, en Israël, pour conclure toute affaire relative à une rédemption ou à un échange, on ôtait sa sandale et on la donnait à l'autre. Cela servait d'attestation en Israël. Le rédempteur dit donc à Boaz « Achète toi-même » et il ôta sa sandale. » Voilà, il renonce à la fois à la terre et à Ruth. Il renonce à la rédemption. Et on voit là le cœur de ce rédempteur. Il a compris que la terre ne sera jamais vraiment à lui, que l'héritage ne portera pas son nom, l'investissement n'est pas rentable, c'est pas intéressant. Si on est dans une logique capitaliste, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et donc il va préférer protéger son héritage. Et c'est quoi le résultat ? C'est assez intéressant, il y a un détail intéressant, je trouve, dans ce texte, c'est que dans ce texte, il est question de sauver le nom du défunt en donnant une descendance à Ruth. Il y a quelque chose autour du nom, l'importance de préserver le nom. Eh bien, le seul dont on ne connaît pas le nom dans ce texte, c'est ce fameux rédempteur. Dès le début, l'auteur du livre de Ruth l'appelle un tel. Boaz dit « Approche et assieds-toi ici, un tel ». Un tel veut donc protéger ses biens, protéger son nom, et son nom va se perdre dans les limbes de l'histoire. On ne saura jamais de qui il s'agissait. L'obstacle pour cet homme, ce n'est pas la loi. L'obstacle, c'est le prix à payer pour aimer comme Dieu aime. Ce qui pose une dernière question. Pourquoi est-ce que Boaz, lui, va assurer la rédemption de Ruth? Pourquoi est-ce que lui va aller jusqu'au bout? Boaz ne porte pas du tout le même regard que le premier rédempteur sur la situation. Ses yeux à lui ne se sont pas posés d'abord sur la terre à acquérir, on l'a vu, ses yeux se sont d'abord posés sur Ruth. Ça change tout. Et parce que ses yeux se sont posés sur les personnes, parce que j'inclus Noémie aussi là-dedans, alors du coup, il est prêt à assumer l'engagement. Il est prêt à accepter le coup. C'est moi ça? Non. Dites-moi que c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est bon. Je me suis perdu. Je reviens. Voilà, parce que ses yeux donc se sont posés sur les personnes, je disais, il est prêt à assumer l'engagement qui va avec, à accepter le coup. Il agit sans ambiguïté, et c'est ce qu'on voit dans la suite de notre texte. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Mahlon, et que j'ai également acheté pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahlon, pour maintenir le nom du défunt sur son patrimoine, et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de la ville. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Et il s'est réveillé, Boaz, là. On est loin, cette fois-ci, de l'attitude un peu passive qu'on lui a vue jusqu'à maintenant. Et je ne sais pas vous, mais moi, il me semble qu'on peut être choqué un peu par la formulation ici. Il a quand même une drôle de liste de courses, il me semble. « J'ai acheté pour femme Ruth la Moabite. » Vous imaginez, hein, deux baguettes, une tome des Bauges, la parcelle de terre d'Elimelech, une lampe Ikea, Ruth la Moabite et un paquet de chewing-gum. C'est curieux, c'est un peu curieux, je trouve. Mais on est dans une société patriarcale et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de remarquer l'ironie de la chose. Donc je vais la relever, vous en ferez ce que vous voudrez, mais Boaz jusqu'ici n'a jamais été dans l'initiative. Depuis le début, c'est Noémie et Ruth qui ont pris les rênes de cette histoire. Et lui, finalement, il arrive à la fin pour signer le contrat, là, tout à fait au dernier moment. Mais ce sont les femmes qui ont fait tout le boulot en amont, en fait. Ce sont elles qui ont orienté le cours des événements. Même la demande en mariage, c'est Ruth qui l'a faite, jusqu'ici, quoi. Ce qui faisait dire à l'un des pasteurs que j'ai eu dans ma vie que la tête du foyer, c'est le mari, mais le coup, c'est sa femme. Et en vrai, je crois que c'est... Au-delà de la blague, hein, je crois que c'est une dynamique qu'on rencontre souvent dans les couples qui ont une conception forte du leadership masculin au sein du mariage. Et à effet pratique, honnêtement, c'est tant mieux parce que l'alternative, c'est la violence. Si on ne tient pas compte de la vie de notre épouse et qu'on lui impose notre volonté, quelle que soit la sienne, eh bien, nous sommes violents. Le modèle qui nous est donné en Éphésiens 5, c'est le modèle de la soumission mutuelle. On discerne ensemble la volonté du Seigneur pour notre vie de couple. Quoi qu'il en soit, Boaz va assumer la rédemption. Pourquoi ? Parce que depuis le début, son regard porte non pas sur la terre, mais sur les personnes. Pour le dire autrement, il va assumer la rédemption parce qu'il aime Ruth, en fait. Parce qu'il l'aime. Il va le faire par amour. Et pour cette raison-là, c'est-à-dire pour cet amour dont il fait preuve, le peuple va le bénir. C'est ce qu'on lit ici. Tout le peuple qui était à la porte de la ville, et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que le Seigneur donne à la femme qui entre chez toi d'être comme Rachel et Léa, qui, à elles deux, ont bâti la maison d'Israël. Déploie ta force à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar donna à Juda. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le peuple demande à Dieu, par cette parole de bénédiction, d'octroyer à Ruth une place aux côtés des matriarches du peuple de Dieu. Ruth, la Moabite, placée à la hauteur de Rachel et de Léa, les épouses de Jacob, les mères des 12 fils dont sont issues les 12 tribus d'Israël. Et effectivement, Ruth va être l'arrière-grand-mère du roi David, et donc l'ancêtre de Jésus lui-même. Ruth, la Moabite. Après, il y a une parole de bénédiction pour Boaz. « Déploie ta force à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. » On retrouve là l'enjeu du nom. « Fais-toi un nom à Bethléem. » Et là aussi, le nom de Boaz, effectivement, ne sera pas oublié. Il va rester gravé dans l'histoire, devant même le nom de Mahlon, qui sera mentionné pour la dernière fois au verset 9. Mais dans les généalogies de 1 Chronique 2, qui est la généalogie des descendants de Juda, ou dans celle de Matthieu 1, qui est la généalogie de Jésus, qui part d'Abraham, c'est le nom de Boaz qui apparaît. Et finalement, il y a une bénédiction sur la descendance de Boaz. Donc là, j'ai déjà parlé de cette illustre descendance, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est intéressant qu'il fasse référence ici à la maison de Pérez, issue de Juda et de Tamar. La maison de Pérez, en fait, c'est celle de Boaz. Et cette maison, elle est née de l'union de Juda, qui est l'un des fils de Jacob, avec Tamar. C'est une histoire qu'on peut lire en Genèse 38. D'abord, il est fort probable, en fait, je pense que c'est à peu près sûr, que Tamar ait été une femme étrangère, une cananéenne, comme Ruth. Elle était mariée au fils de Juda, mais elle s'est retrouvée veuve, comme Ruth. Le plus proche rédempteur de Tamar, qui était Onan, a manigancé pour ne pas lui donner de fils parce qu'il savait que sa descendance ne lui appartiendrait pas, comme Ruth. Et c'est Tamar qui a remué ciel et terre pour que Juda accomplisse son obligation de rédemption, comme Ruth. Et entre parenthèses, Tamar va utiliser des moyens pour le moins discutables, puisqu'elle va se déguiser en prostituée pour coucher avec son beau-père, afin d'assurer une descendance à son époux défunt, qui est une disposition légale, instaurée par Dieu dans la loi mosaïque, pour la protéger elle. Alors pour le dire autrement, Ruth et Tamar sont deux étrangères du peuple de Dieu, qui ont poussé les Israélites à être conséquents quant à la loi du Dieu d'Israël. Et en cela, elles ont été plus justes que les enfants d'Israël eux-mêmes. Et pour cela, elles apparaissent toutes les deux dans la généalogie de Jésus. Alors, j'arrive à la fin. On est à la porte de la ville. Il y a un homme qui protège son héritage et qui, pour protéger son héritage, perd son nom en route. Et puis, il y a un autre homme qui accepte, par amour, de payer le prix, de se dépouiller lui-même et qui entre dans l'histoire de Dieu. Évidemment, le parallèle avec notre Rédempteur, Jésus-Christ, est évident. Il est lui celui qui a payé le plus grand prix pour notre rachat. Il est lui notre hexagorazo, celui qui nous a sortis du marché aux esclaves. Nous étions esclaves du péché, mais il nous a rachetés en s'offrant lui-même en sacrifice. Ça, c'est le prix exorbitant de notre rachat par Jésus-Christ. On a été racheté au prix de la vie du Fils unique de Dieu. Il y a autour de nous des proches, des amis, des voisins qui vivent en esclavage et qui ont besoin d'être rachetés. Et bien sûr, nous, on n'est pas leur rédempteur. Il ne faut pas se substituer à Jésus. Il n'y a qu'un seul rédempteur, qu'un seul sauveur, et ce n'est pas nous. Mais quel prix est-ce qu'on est prêt à payer, nous, pour les amener vers ce rédempteur ? Est-ce qu'on est prêt à donner de notre personne sans calculer les bénéfices qui nous seraient personnels ? Investir sur quelqu'un, investir dans la vie de quelqu'un d'autre, évidemment, c'est jamais pour nous-mêmes. C'est pour l'autre qu'on le fait, et si on le fait, c'est par amour. C'est parce qu'on porte sur lui un regard d'amour. Si je n'ai pas l'amour, dit Paul, je suis comme une cymbale qui résonne, cela ne me sert de rien. Je vous laisse cette réflexion aussi en préparation et en amont de ce temps qu'on va vivre au mois de mars. On va vivre donc un temps, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, un temps de discernement vis-à-vis de ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour qu'on les pratique. On va vivre ce temps autour de nos dons, de nos talents qui sont propres à cette Église, des ressources dont nous disposons. On va le vivre aussi en fonction des besoins de la ville qui nous entoure. On va prier autour de ces besoins-là pour essayer de voir comment nos dons, nos talents, nos ressources vont à la rencontre des besoins qui nous entourent. Et peut-être que dans cette prière, dans ce temps de discernement, on peut se rappeler de cette générosité de Boaz qui a porté un regard d'amour sur Ruth qui lui a fait faire des folies en fait, qui lui a fait faire des choses que quelqu'un qui a une réflexion, je dirais mathématique, qui fait les comptes, qui regarde les bénéfices, eh bien a mis de côté parce qu'en fait c'était pas rentable. Je vais prier. Seigneur, nous voulons reconnaître devant toi que toi, tu n'avais rien à gagner du tout à nous racheter, que tu ne nous devais rien, que tu aurais pu faire un autre choix qui aurait été tout à fait juste légalement. Mais ce n'est pas le choix que tu as fait. Tu as fait le choix de donner de ta personne, de donner ta vie, de sacrifier ton fils, Seigneur et lui-même a fait le choix de se dépouiller de tous les privilèges qui étaient les siens pour venir ici sur la terre pour assurer notre rédemption et il l'a fait au prix fort de sa vie. Seigneur, nous savons que c'est toi le Sauveur, c'est pas nous. Nous savons que nous ne sommes pas appelés au même sacrifice que toi, mais nous savons aussi qu'effectivement il y a autour de nous des personnes qui ne te connaissent pas, qui se perdent dans cette vie et qui vont droit à la perdition. Seigneur, nous voulons porter sur ces gens le même regard que toi et nous voulons être prêts à investir dans leur vie sans calculer le bénéfice pour nous-mêmes, mais en regardant le bénéfice pour eux. Et nous savons que c'est un prix qui coûte. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement émotionnel, c'est des déceptions, c'est le fait de voir piétiner la grâce dont nous faisons preuve parfois, Seigneur. Mais c'est aussi le plaisir et le bonheur de voir des gens s'ouvrir à toi, de voir des vies transformées, de voir des gens vraiment passer de la mort à la vie et s'engager dans une vie avec toi, dans ta présence éternelle, Seigneur. Et ça vaut tout ce que nous possédons. Nous voulons avoir cette audace-là, alors que nous allons entrer dans une réflexion d'ici 3 semaines, et dans un temps de prière surtout et de discernement, Seigneur, nous voulons intégrer cette dimension-là de ton sacrifice à la croix et de ce qu'il dit, de la manière dont nous pouvons être en relation avec le monde qui nous entoure, un monde qui a désespérément besoin de toi. Seigneur, je te prie de travailler nos cœurs, de travailler nos cœurs aussi en amont de ce temps de discernement que nous aurons. Prépare nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être attentifs à ta voix, à ce que tu nous diras, à ce que tu nous demanderas de faire, Seigneur. Je te prie nous brisons maintenant les murs, toutes les constructions intérieures qui nous empêchent de t'écouter, de t'entendre. Nous te demandons de parler fort, Seigneur, plus fort que le brouhaha du monde. Et en même temps, ce brouhaha, Seigneur, nous l'éteignons. Nous voulons être disponibles pour toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.